Nous continuons notre série de prédications intitulée « L'Avent, une histoire de… » Trois petits points. L'Avent, c'est attendre ce qui vient. C'est le sens premier du mot. Ce qui vient. L'Avent, c'est ce qui vient. C'est celui qui vient. C'est l'annonce de l'incarnation, de la venue de Dieu en chair. L'Avent est un regard en arrière vers la première venue de Christ. Mais c'est aussi un regard en avant vers son…
Sa deuxième venue,
son retour. Yannick Humbert, professeur d'apologétique, a très bien, bien décrit l'Avent pour les chrétiens. Voici ce qu'il écrit. L'Avent est la proclamation de l'Évangile. Christ est venu, Christ habite en nous par son esprit et Christ revient. Amen. C'est tellement bien résumé, n'est-ce pas? Dimanche dernier, notre thème était l'Avent, une histoire de plaisir. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet encore plus encourageant. Un thème qui a le pouvoir de transformer nos vies et notre monde. L'Avent, une histoire d'espérance. Quelles sont les espérances ou les aspirations qui vous tiennent à cœur actuellement? En général, les gens désirent une vie heureuse, la réalisation de leurs objectifs, le succès dans leurs entreprises, le confort, l'épanouissement dans leurs relations personnelles et trouver un sens à leur vie. Nos espérances varient considérablement d'une personne à l'autre. Alors que certains recherchent le confort, les plaisirs, le dernier smartphone, la dernière voiture qui vient de sortir, d'autres luttent pour satisfaire des besoins essentiels, tels que se nourrir, juste avoir un toit aujourd'hui. Nos espérances varient considérablement d'une personne à l'autre. Quelle que soit notre situation, nous partageons tous un besoin fondamental, l'espérance en un avenir meilleur. Nous aspirons tous à une vie meilleure. Comme Christiane l'exprimait, si justement dimanche dernier, nous sommes tous à la recherche du paradis perdu. Merci Christiane. Manu, pour les intimes. Au fond, ce que nous cherchons, c'est un monde où règne la justice, un monde où règne la paix, un monde où règne le bonheur. Cependant, depuis 2020, notre espoir en l'avenir, déjà fragile, a été ébranlé par une pandémie, n'est-ce pas ? Les changements climatiques aggravent la situation. On a entendu des choses là. Températures extrêmes, incendies de forêt, inondations, ouragans, montée de niveau de la mer. Sans oublier de nombreux conflits comme la guerre en Ukraine, les tensions au Moyen-Orient et d'autres crises qui continuent de causer souffrance et déplacement de populations. Les crises économiques, problèmes politiques, instabilité gouvernementale et dégradation environnementale s'ajoutent à tout cela. Je ne vous apprends probablement rien en disant qu'une bonne majorité des Français est pessimiste quant à l'avenir de la France. Les principales préoccupations personnelles des Français concernent le pouvoir d'achat, la santé, l'environnement, les inégalités. Quelque chose de très fort, c'est aussi les incivilités, la délinquance. Face à toutes ces réalités mondiales, l'avenir peut sembler effrayant, non? Une réalité encore plus effrayante est inévitable. Un jour, nous allons tous mourir. L'aspiration profonde à une vie au-delà de la mort est un besoin fondamental en chacun de nous. Nous voulons vivre éternellement. Et tellement de personnes essayent de trouver des astuces pour qu'on puisse vivre éternellement, n'est-ce pas? Voici la nouvelle la plus extraordinaire. L'Avent est une histoire d'espérance qui promet un avenir meilleur, mieux que cela, un avenir parfait. À travers le livre d'Ésaïe, que nous avons lu dimanche dernier, et là cette fois-ci nous serons dans le chapitre 11, nous avons touché le chapitre 9, nous découvrirons ensemble comment l'espérance dont le monde a tant besoin se manifestera. Premièrement, le monde, ou plutôt l'espérance dont le monde entier a besoin, se manifestera premièrement par la venue d'un sauveur. Je vous invite à lire Ésaïe chapitre 11, verset 1. Vous pouvez l'ouvrir dans vos Bibles, et puis ensuite il s'affichera aussi. Ésaïe chapitre 11, verset 1. Alors, on va aller jusqu'au verset 9, et on ira verset par verset. Ça va être un peu technique aussi. Mais accrochez-vous, il y a un très gros message d'espérance dans ce texte. Ésaïe, chapitre 11, verset 1. Je cite donc le premier verset. « Un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe. Un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. » Fin de citation. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Imaginez un arbre qui représente le peuple de Dieu. Un jour, cet arbre semblait coupé, fini. Mais soudain, alors qu'il n'y a qu'une souche, une nouvelle petite branche, pleine de vie, commence à pousser. Vous avez déjà vu ça? Vous êtes dans un lieu, il n'y a rien du tout, c'est sec. Et puis vous voyez une petite plante qui commence à pousser. C'est l'image qu'utilise la Bible ici, dans Ésaïe 11, verset 1. Pour parler d'un futur sauveur, d'un roi spécial, du Messie. Ce n'est pas un hasard si Ésaïe mentionne Isaïe, le père de David. Le Messie, ce roi tant attendu, sera un descendant de David. Dieu tient donc sa promesse qu'il avait faite à David, que nous retrouvons dans 2 Samuel 7, verset 16. Je cite, « Oui, donc c'est Dieu qui parle à David, « Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté et ton trône sera inébranlable à perpétuité. » Et on se dit, pour qu'il soit inébranlable à perpétuité, ça ne peut pas être que David. Il y a quelqu'un dans sa descendance qui va être éternel. Le Messie viendra pour régner. Il représente une nouvelle branche pleine d'espoir pour le monde entier. Le prophète Ésaïe nous parle d'espérance au cœur d'un monde abattu. Lorsque tout paraît perdu, sans espoir, un événement inattendu et miraculeux se produira. Nous nous trouvons à un moment crucial et glorieux de l'histoire humaine. Un moment où l'espérance brille comme un phare dans la nuit. Alors mes amis, réjouissons-nous. Jésus-Christ, ce Messie tant attendu, est venu parmi nous il y a plus de 2000 ans. Grâce à lui, nous pouvons croire en un avenir parfait, car Jésus-Christ est venu pour sauver du péché, du mal et de la souffrance. Et on le sait, juste après, il n'est pas venu juste pour venir. Il est venu pour mourir et ressusciter. C'est ainsi qu'il nous sauve de la mort et du péché, pour que nous recevions la vie éternelle pour l'éternité. L'espérance dont le monde entier a besoin se manifestera par, deuxièmement, le règne du Sauveur. Dimanche dernier, nous avons découvert dans Ésaïe 9, verset 5, que le Messie, Jésus-Christ, est nommé prince de la paix, prince de la paix. Imaginez un monde sous le règne d'un roi pas comme les autres, dont l'influence sera parfaite, positive, universelle. C'est surprenant, n'est-ce pas, de penser à cela. Habituellement, on n'associe pas un règne unique d'un roi à l'espoir, à l'espérance. Surtout en regardant l'histoire. C'est rarement arrivé. Hein. Mais le roi dont nous parlons ici n'est autre que Jésus-Christ, le prince de la paix. Son règne sera incomparable. Il apportera au monde entier une paix parfaite, une paix éternelle. Mes amis, à travers l'histoire biblique, de nombreux rois et libérateurs ont guidé le peuple de Dieu. Mais aucun n'a possédé les qualités et la perfection nécessaires pour apporter la paix durable. Et si l'on regarde les gouvernements du monde, aucun n'a pu garantir non plus une paix durable et éternelle. Pourtant, Jésus-Christ, le Messie annoncé par Ésaïe, est celui qui peut réaliser cette paix parfaite. Son règne de paix est inébranlable pour plusieurs raisons. Et c'est ce que nous allons voir au travers de la suite du chapitre 11. Donc, nous étions au verset 1, nous allons voir les versets suivants. Le règne inébranlable de paix de Jésus-Christ sera assuré car, premièrement, il détient la plénitude infinie de l'Esprit Saint. Je cite donc le verset 2, Ésaïe l'annonce clairement, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Des siècles plus tard, Jésus lui-même, qui se voyait comme l'accomplissement de cette prophétie, a dit dans Luc chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour » et plusieurs choses sont nommées. L'apôtre Pierre, témoin de la vie de Jésus, confirme cela dans Actes, chapitre 10, verset 38. Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Yeah! Ainsi, l'onction du Saint-Esprit sur Jésus est un signe indéniable qu'il a été spécialement choisi par Dieu pour régner éternellement. Deuxièmement, le règne inébranlable de paix de Jésus-Christ sera assuré car il est l'incarnation même de la sagesse. Ésaïe le dit au verset 2. Cet esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil. Cette profonde sagesse est également soulignée par l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 2, verset 3, où il écrit « En lui, donc en Jésus, se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Waouh ! Ainsi, Jésus-Christ n'est pas seulement sage, il est la sagesse même, doté d'une intelligence et d'une connaissance hors du commun. Le règne inébranlable de paix de Jésus-Christ sera assuré, troisièmement, car sa force est sans limite. Ésaïe le dit, toujours au verset 2, cet esprit lui donnera quoi ? La force. Pendant son ministère terrestre, Jésus a démontré son pouvoir sur les maladies, les forces de la nature et même sur les démons. Plus impressionnant encore, il a triomphé de la mort elle-même. Il a dit aussi dans Matthieu, chapitre 28, verset 18, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » Ainsi, la force de Jésus-Christ est sans borne et il possède une autorité souveraine et absolue sur toute sa création. Le règne inébranlable de paix de Jésus-Christ sera assuré car, quatrièmement, il manifestera pleinement la crainte de Dieu. Ésaïe le dit au verset 2 et 3. Cet esprit lui fera connaître et craindre l'Éternel. Il sera tout empreint de la crainte de l'Éternel. Jésus-Christ a démontré un respect et une soumission totale envers Dieu le Père, comme il l'exprime, par exemple, dans Jean chapitre 4, verset 34. « Ce qui me nourrit, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. » Dans ce texte, il est clair ici que Jésus est en train de dire que toute sa satisfaction personnelle était de plaire à Dieu, de faire ce qui plaît à Dieu, de faire sa volonté, d'être soumis à lui. Cette déclaration montre parfaitement son engagement inébranlable à suivre la volonté de Dieu, un aspect fondamental de son règne de paix. Le règne inébranlable de paix de Jésus-Christ sera assuré car, cinquièmement, il incarne la justice parfaite. Ésaïe nous dépeint clairement cela dans les versets 3 à 5. Je cite, « Il ne jugera pas d'après les apparences, ce que beaucoup de gens font, n'est-ce pas ? Et n'arbitrera pas d'après des oui-dire, ce que beaucoup de font, n'est-ce pas ? Mais écoutez la suite. Il jugera les pauvres avec justice et il arbitrera selon le droit en faveur des malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme avec un bâton. Le souffle de sa bouche abattra le méchant. Il aura la justice pour ceinture à ses reins et la fidélité pour ceinture à ses hanches. » Fin de citation. Ces mots sont forts et montrent que Jésus-Christ incarne la justice dans son essence même. Son règne de justice se manifestera tout particulièrement dans la défense des plus démunis, ce qui illustre parfaitement son caractère juste et équitable. L'apôtre Jean, qui a connu Jésus, décrit Jésus-Christ ainsi dans 1 Jean chapitre 2, verset 1. « Jésus-Christ, le juste. » Intéressant. Et encore, l'apôtre Jean souligne l'engagement de Jésus-Christ envers la justice dans Apocalypse 19, verset 11. En parlant de Jésus, il dit ceci, « Il juge avec équité, il combat pour la justice. » Face aux nombreuses injustices que nous observons dans le monde, l'apôtre Pierre nous offre l'une des promesses les plus extraordinaires qui donne plein d'espoir. Il dit ceci dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 13. « Nous, nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. » Elle ne sera pas là de temps en temps. Elle demeurera, elle sera présente, elle sera totale. Cette vision incroyable d'un avenir où la justice règne sans faille est un rappel puissant que malgré les turbulences actuelles, un monde empreint de justice parfaite est en train d'arriver. Nous attend tous si nous plaçons notre foi en Jésus. Voici maintenant comment Ésaïe décrit la paix que Jésus-Christ apportera dans les versets 6 à 9. Le loup vivra avec l'agneau. La panthère reposera aux côtés du chevreau. Le veau et le lionceau et le bœuf à l'engrais seront ensemble et un petit enfant les conduira. Les vaches et les ours brouteront côte à côte et leurs petits auront un même gîte. Le lion et le bœuf se nourriront de paille. Le nourrisson s'ébattra sans danger près du nid du cobra. Et le tout jeune enfant pourra mettre la main dans l'antre du serpent. On ne commettra plus ni mal ni destruction sur toute l'étendue de ma montagne sainte. Ouais. C'est énorme ce qui est écrit ici. Imaginez la paix que Jésus-Christ apportera. Elle est décrite ici magnifiquement par Ésaïe. Un monde où toute agressivité entre les hommes, toute agressivité entre les animaux, toute agressivité entre les hommes et les animaux aura disparu. Ils vivront en harmonie sans crainte. Et ce que je veux vous souligner, c'est la chose suivante. Ce qui nous attend, c'est un règne où même la mort et la destruction seront vaincus. Il n'y aura plus le mal. Une telle paix et tranquillité seront possibles uniquement sous le règne de Jésus-Christ sur la terre entière. Troisième et dernier point. L'espérance dont le monde tant besoin se manifestera par la présence du Sauveur. L'espérance ultime pour le monde se trouve dans la présence du Sauveur. Une promesse magnifiquement décrite par Ésaïe au verset 9. Je cite, « On ne commettra plus ni mal ni destruction sur toute l'étendue de ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme les eaux recouvrent le fond des mers. » Vous connaissiez ce texte? Mais c'est extraordinaire, quelle promesse! Imaginez un monde où la connaissance de Dieu imprègne chaque recoin, tout comme les eaux recouvrent les fonds marins. C'est une des promesses les plus glorieuses de la Bible. Cette vision d'un monde imprégné de la connaissance de Dieu n'est pas qu'un simple espoir lointain, les amis. Elle commence à se réaliser dans le monde actuel. J'ai entendu dernièrement quelqu'un que je connaissais qui est parti sur une terre, un pays où le peuple, il y avait un peuple non atteint par l'Évangile. Et il y en a beaucoup. Et il y a de plus en plus de peuples qui sont atteints par l'Évangile. Actuellement, on compte 7000 peuples qui n'ont pas encore accès à l'Évangile. Ça fait beaucoup, hein? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité de lire la Bible dans leur langue. Ils n'ont pas d'église. Ils n'ont aucune ressource pour se renseigner, aucune œuvre chrétienne active à proximité. Ces peuples ne sont donc pas encore en contact avec un ou des chrétiens susceptibles de leur annoncer le message du salut en Jésus-Christ. Et nous, notre rôle aujourd'hui, demain est, et jusqu'à ce que Christ revienne, c'est de prier pour que, et d'agir aussi pour que cela se produise, pour que tous les peuples de la terre puissent entendre parler de Jésus, et accéder, pouvoir lire la Bible et pouvoir profiter d'une communion fraternelle avec d'autres chrétiens. Nous devons agir et prier sans cesse pour cela. Et nous pouvons croire en cette promesse parce qu'elle est en train de se réaliser. Et un jour, toute la terre connaîtra Dieu. Et dans notre texte, on entrevoit un peu le paradis. Paradis sur cette nouvelle terre que Dieu prépare. Ceux qui ont placé leur foi, leur confiance en Jésus-Christ, vivront dans une communion profonde et éternelle avec Dieu. Jésus est venu précisément pour révéler Dieu. Non pas pour offrir une connaissance superficielle de Dieu, mais pour guider vers une connaissance profonde de Dieu, une relation intime avec lui. L'apôtre Jean nous donne une vision encore plus profonde dans Apocalypse chapitre 2, 21, verset 3, où il dit ceci, « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples. » Et lui, Dieu, eux, avec eux, sera leur Dieu. Imaginez vivre en présence directe de Dieu. Le contempler dans toute sa majesté, sa sainteté. Partager une communion intime avec lui pour l'éternité. Ce qui va nous éclairer en plus dans ce paradis, ce n'est plus le soleil comme nous avons l'habitude, mais la gloire de Dieu qui éclairera cette terre. C'est exactement la promesse du paradis qui nous attend. Je vais maintenant conclure. L'Avent est une histoire d'espérance. L'espérance dont le monde entier a besoin se manifestera par la venue du Sauveur qui est venu pour mourir pour nous et ressusciter pour le pardon de nos péchés et nous donner la vie éternelle. Deuxièmement, l'espérance dont le monde entier a besoin se manifestera par le règne du Sauveur Jésus-Christ. Et enfin, troisièmement, par la présence éternelle du Sauveur. Nous sommes dans un monde qui va mal, mais un avenir parfait se profile à l'horizon. Si parmi nous, certains n'ont pas encore placé leur confiance en Jésus, je vous encourage à saisir cette opportunité aujourd'hui, aujourd'hui même. Ne remettez pas à demain. Soyez réconciliés avec Dieu. Ouvrez-lui votre cœur. Confessez vos fautes et exprimez votre désir de recevoir sa présence dans votre vie. Après le culte, n'hésitez pas à venir vers nous afin que nous puissions vous accompagner dans votre démarche, dans votre relation avec Dieu. Pour nous qui appartenons à Dieu, nourrissons sans cesse nos cœurs de cette espérance par la parole de Dieu. Nourrissons nos cœurs sans cesse par l'encouragement mutuel. Ces temps que nous avons au culte sont des moments qui nous encouragent et nous rappellent ensemble l'espérance. Et puis, encourageons-nous par les chants, des chants de louange. Il y a tellement de chants qui nourrissent nos cœurs pour nous aider à nous rappeler notre espérance en Christ. Cultivons aussi un désir fervent pour le retour de Jésus-Christ. Si je vous demandais, est-ce que tu es pressé de voir Jésus? Peut-être que beaucoup ou certains diraient, non Manu, là, j'ai des projets là. J'ai besoin de voir telle ou telle chose se réaliser, tu sais. Si on est encore là, c'est qu'il y a un problème. On a besoin que Dieu nous aide à nourrir notre espérance au point que nous avons envie de dire, Jésus revient, reviens bientôt. Je veux te voir. Et puis, avec les souffrances criantes de ce monde, ça ne peut que nous amener à dire, Seigneur, reviens bientôt. Reviens bientôt, comme tu l'as dit. Cultivons donc ce désir fervent pour le retour de Jésus-Christ et menons une vie qui l'honore, qui lui est agréable. Et en attendant ce glorieux jour, ne laissons pas le pessimisme voler notre espérance. Ne laissons pas les médias voler notre espérance. Ne laissons pas les tentations et les épreuves de la vie voler notre espérance. Ne laissons pas le climat anxiogène voler notre espérance. Mais proclamons partout où nous sommes notre espérance en Christ, en toutes circonstances. Que cette espérance en Christ et la promesse d'un avenir parfait façonne jour après jour nos pensées, nos paroles et nos actions. Amen. Prions. Notre Père, au cœur de nos vies, nous avons tous ce besoin essentiel, l'espérance en un avenir meilleur. Te remercions car tu nous promets bien plus un avenir parfait. Cette espérance se manifeste par la venue, le règne et la présence de notre Sauveur. Ce matin, nous avons compris que sous le règne de Christ, le mal, les violences, les souffrances, les maladies et même la mort n'auront plus leur place. Mais à leur place régneront la paix, la justice, un bonheur total en ta présence. Aide-nous, notre Dieu, à garder cette espérance, à la nourrir constamment dans nos cœurs, que même au milieu de nos épreuves, de nos luttes quotidiennes, nous puissions constamment nous rappeler cette inébranlable espérance, qu'elle soit notre source de force, d'encouragement, et que ça nous donne la détermination nécessaire pour avancer et persévérer avec foi. Te remercions, notre Dieu, pour la promesse d'un avenir parfait et glorieux que tu prépares pour nous. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Amen.